Chapitre 53, le sanctuaire céleste. 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Ce passage biblique, fondement et clé de voûte de la foi adventiste, était bien connu de tous ceux qui croyaient au prochain retour du Seigneur. Cette prophétie a été répétée par des milliers de croyants comme le mot d'ordre de leur foi. Tous étaient convaincus que leurs espérances les plus lumineuses et les plus chères dépendaient des événements prédits dans ce verset. Or, il avait été montré que ces jours prophétiques aboutissaient à l'automne de 1844. En accord avec l'ensemble du monde chrétien, les adventistes croyaient alors que la terre, en totalité ou en partie, constituait le sanctuaire, et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour, c'est-à-dire au retour du Christ qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. Mais le jour prévu était passé, et l'apparition du Seigneur n'avait pas eu lieu. Pourtant, les croyants savaient que la parole de Dieu ne peut pas faillir à sa promesse, l'erreur ne pouvait donc venir que d'une interprétation erronée de la prophétie. Mais en quoi consistait cette erreur? Nombreux furent ceux qui crurent trancher le problème en disant que les 2300 jours n'aboutissaient sûrement pas en 1844. Néanmoins, rien ne permettait de le dire, sinon que le Christ n'était pas revenu au moment où on l'attendait. Ceux qui adoptèrent cette position prétendaient que si les jours prophétiques étaient arrivés à expiration en 1844, Jésus serait revenu à cette date pour purifier par le feu le sanctuaire, qui était à leurs yeux la terre. Selon eux, puisqu'il n'était pas revenu, l'aboutissement de la prophétie des 2300 jours ne coïncidait pas avec 1844. Bien qu'un grand nombre de croyants aient abandonné leur ancien calcul des périodes prophétiques et renié le grand mouvement qui s'en était inspiré, rares furent ceux qui se montrèrent disposés à rejeter des vérités fondées sur des faits, sur les Écritures et sur le témoignage évident de l'Esprit de Dieu. Convaincus d'avoir adopté, dans leur étude de la prophétie biblique, des principes d'interprétation justes, ils estimaient qu'il était de leur devoir de rester fidèles aux vérités déjà révélées, et de continuer à sonder les textes sacrés. Ils réexaminèrent donc les Écritures afin de découvrir leur erreur et adressèrent à Dieu d'ardentes prières. N'en ayant trouvé aucune dans leur interprétation des périodes prophétiques, ils entreprirent une étude plus approfondie du sanctuaire. Le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. Au cours de leurs recherches, ils découvrirent que le sanctuaire terrestre, construit par Moïse sur l'ordre de Dieu et selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne, était une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices, que ces lieux saints représentaient des images des choses qui sont dans les cieux, et que le Christ, notre souverain sacrificateur, ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur, et non par un homme, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais, qu'il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le sanctuaire céleste dans lequel Jésus officie maintenant en notre faveur est l'archétype dont le sanctuaire construit par Moïse était une reproduction. De même que le sanctuaire terrestre comportait deux pièces, le lieu saint et le lieu très saint, il en est de même dans le sanctuaire céleste. L'arche contenant la loi de Dieu, l'autel des parfums et d'autres ustensiles qui se trouvaient dans le sanctuaire ici-bas, ont aussi leur équivalent dans le sanctuaire céleste. Au cours d'une vision, il fut donné à l'apôtre Jean de pénétrer dans le ciel où il put voir le chandelier et l'autel des parfums. Le temple de Dieu ayant été ouvert devant ses yeux, il eut aussi le privilège de contempler l'arche de son alliance. Ceux qui étaient à la recherche de la vérité prirent conscience de l'existence indéniable d'un sanctuaire céleste. Moïse, rappelons-le, avait construit le sanctuaire terrestre d'après une maquette qui lui avait été montrée. Paul déclare que cette maquette était une reproduction du véritable sanctuaire qui est dans le ciel, et que Jean affirme avoir vu en vision. Au terme des 2300 jours, en 1844, le sanctuaire terrestre avait disparu depuis bien des siècles. La déclaration. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ne pouvait donc s'appliquer à rien d'autre qu'au sanctuaire céleste. Mais dans quel sens le sanctuaire céleste avait-il besoin d'être purifié? En approfondissant le Saint-Livre, les étudiants de la prophétie parvinrent à la conclusion qu'il ne pouvait s'agir de faire disparaître des impuretés physiques. En effet, la purification du sanctuaire étant accomplie avec du sang, celle-ci devait donc se rapporter au péché. L'apôtre déclare, « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, par le sang des animaux, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, c'est-à-dire par le sang précieux du Christ. La purification du sanctuaire. De même qu'autrefois, les péchés du peuple étaient transférés, en image, dans le sanctuaire terrestre par le sang de l'offrande pour le péché, de même, nos péchés sont transférés en réalité par le sang du Christ dans le sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre était symboliquement purifié par l'élimination des péchés qu'il avait souillés, de même, il faut que le sanctuaire céleste soit réellement purifié grâce à l'élimination, ou à l'effacement, des péchés qui y sont consignés. Mais cela suppose que les registres du ciel soient examinés afin de déterminer quels sont ceux qui, par la repentance et la foi en Jésus, pourront bénéficier de son expiation. La purification du sanctuaire implique donc un jugement préliminaire. Ce jugement doit avoir lieu avant la venue du Christ pour le salut de son peuple puisque, à son retour, il accordera à chacun selon ce qu'il aura fait. Voilà comment ceux qui marchaient dans la lumière croissante de la parole prophétique ont compris qu'au lieu de venir ici-bas en 1844, au terme des 2300 jours, le Christ est entré à ce moment-là dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en la présence même de Dieu, pour y achever l'œuvre de propitiation qui doit préparer sa venue en gloire.